C'est vrai, au départ, l'idée de faire un épisode sur les 80 ans du débarquement allié en Normandie, ça ne m'attirait pas plus que ça. C'est peut-être parce que j'habite près de Paris et qu'il m'est facile de me rendre dans cette région du nord-ouest de la France, que j'y suis donc allée plusieurs fois. Enfant d'abord, c'est un passage obligé pour beaucoup d'élèves lorsque vient le temps d'étudier la Seconde Guerre mondiale. Adulte ensuite, lorsque le temps d'un week-end, eh bien cela permet de voir la mer sans faire des heures de trajet. Mais 80 ans, ça n'est pas rien, et j'ai donc assez vite changer d'avis avec ce questionnement. Au-delà du devoir de souvenir et de mémoire, cet héritage historique que représente le D-Day n'est-il pas au fond devenu une attraction touristique comme une autre? Et surtout, qu'en pensent les habitants, eux qui au quotidien vivent entourés de tous ces lieux de mémoire? Ces questions, je les ai posées à Valentin Hugues le 4 juin, date à laquelle nous avons enregistré cet épisode. Valentin est journaliste au service France de RFI. Il a consacré deux grands reportages et plusieurs autres illustrations aux 80 ans de ce D-Day, ce 6 juin 1944, au cours duquel les plages de Normandie ont été le théâtre d'un événement qui a changé le cours de l'histoire. Le débarquement, celui qui a marqué le début de la libération de l'Europe, occupée par les forces allemande d'Adolf Hitler. Des milliers de soldats, essentiellement américains, britanniques et canadiens, qui ont donné leur vie pour cette liberté. Chaque année depuis, des millions de personnes viennent rendre hommage à leur sacrifice sur les 80 km de plage où ils sont arrivés. Bonjour Valentin.
Bonjour Alexandra.
Je viens de dire que les plages du débarquement, elles s'étalent sur 80 km à peu près. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, on part à l'ouest de la ville de Sainte-Marie-du-Mont jusqu'à Ouistreham à l'est, et avec ces noms donnés aux plages du débarquement, Utah, Omaha Beach, Juno Beach, c'est sur ces lieux que toi tu as tourné l'essentiel de tes reportages?
Eh bien justement pas du tout. J'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent parce que c'est vrai que le débarquement on le traite beaucoup. Il y a eu le 70e, il y a eu le 60e, il y a eu beaucoup de productions journalistiques. Et moi jeune journaliste, c'est la première fois que je travaille là-dessus. Et je me suis dit comment je peux apporter quelque chose de nouveau. Et lors d'un premier reportage, j'ai cet habitant qui est en train de rénover un bunker et il me dit « on parle tout le temps d'Omaha, on parle tout le temps de Utah, on parle tout le temps des plages ». Il ne remettait pas du tout en question l'importance de ces plages. Mais il me disait « c'est vrai que ça impressionne plus les gens parce qu'on a ces images de ces soldats qui débarquent sur la plage et qui courent ». Mais il ajoutait que les batteries, les bunkers un peu plus dans les terres ont aussi été des théâtres d'affrontement. Il y a aussi eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment le rôle des Britanniques, qui dans la nuit du 5 au 6 vont neutraliser toutes les positions. Et ça a été un peu le point de départ pour mon grand reportage. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre le défi de faire un reportage sur le débarquement sans aller sur les plages.
Et ce défi, tu l'as commencé bien en amont, évidemment, des commémorations. Est-ce que déjà, à ce moment-là, puisque ça fait quelques mois évidemment que tu travailles sur ce sujet, les marques de ces 80 ans du D-Day, elles étaient bien visibles sur tous ces lieux?
Alors c'est vrai que je m'y suis pris très très tôt, j'ai commencé 3 mois avant, donc ça fait un petit moment que je suis dessus. Ce qui est intéressant, c'est que l'ambiance est toujours différente. Ça veut dire que la première fois que je mets les pieds là-bas, il y a 3 mois, j'étais pas loin de Ouistreham, dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on sent que le débarquement est là. Il y a des petites boutiques de souvenirs, on peut croiser des drapeaux anglais, britanniques, des drapeaux américains. Certaines personnes ont des vestes un peu militaires, donc on sent que le débarquement est là.
Est-ce que plus que d'ordinaire, parce que c'est vrai, je disais au début, moi j'ai l'habitude d'aller en Normandie, on ne peut pas rater le fait qu'il y a eu ce D-Day quand on va en Normandie. Est-ce que là déjà, 3 mois avant, il y avait cette marque supplémentaire des 80 ans?
Et justement, pas tant que ça. Ça m'a un peu étonné. 3 mois avant, c'est un petit peu comme tu disais, comme les autres années. On sent que c'est là, mais on sent que le débarquement, il dort un peu. Il est quelque part et ça va se réveiller. Et c'est vrai que plus on y va, et ça c'est le privilège de travailler sur un sujet sur le long terme, c'est qu'à chaque fois qu'on y retourne, là on sent que c'est en train de se réveiller. Et par exemple, tu vois, je parlais du rôle des Anglais tout à l'heure. Il y a le Pegasus Bridge qui est un point très important à côté de Bénouville. Et là-bas, il y a des cafés historiques qui ont été les premiers cafés, enfin les premiers lieux libérés. 3 mois avant, ils sont fermés encore. Donc on les voit, ils sont là, mais ça dort encore un peu.
Parce qu'on n'est même pas dans une saison touristique en plus en France.
Et surtout, eux, leur saison touristique, c'est vraiment en plus au mois de juin avec les millions de touristes. Donc c'est vrai qu'on sent qu'ils dorment un petit peu. Et puis, plus on y va, plus ça se réveille. Et c'est vrai que pour moi, c'est surtout le mois avant, là, depuis un mois, où on a évidemment ces affiches 80 ans du débarquement. Sur les restaurants, il y a le programme, on sait un peu à quoi s'attendre. Et on sent que là, pour le coup, ça se réveille. Et tu vois, la dernière fois que j'y suis allé, j'étais à côté de Caen, il y a à peu près 2 semaines, rien que dans les boulangeries, là, on a des petits drapeaux au-dessus des baguettes, 80 ans, et là, on peut vraiment plus le louper. Et quand on arrive, on se dit... il va se passer quelque chose dans quelques temps.
C'est comme dans les médias, on sent que ça monte au fur et à mesure.
Exactement.
Alors tout ça, évidemment, ça participe à faire de la Normandie un endroit de souvenirs, de mémoire, on l'a dit, avec ses musées, il y a le mémorial de Caen également. Et puis, ce dont on ne penserait pas, évidemment, en premier, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est l'entretien des bunkers, ces blockhaus, qui étaient tenus à l'époque par les Allemands. Tu m'en dis plus ?
Ça, c'est hyper intéressant et c'est le tout premier reportage que j'ai tourné là-bas. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'habitants qui sont des fois au sein d'associations qui, tous les ans, parce qu'ils n'attendent pas les années rondes, les 80 ans, ils le font tous les ans, ils rénovent des bunkers. Parce que par définition, les bunkers étaient très solides, donc ils sont encore là. Quand on va en Normandie, tu as dû en voir également.
On en voit plein.
On en voit plein, et c'est vrai que certains sont un peu à l'abandon et sont en train de s'abîmer. Des fois, il y a beaucoup de végétation dessus, on les voit quasiment plus, et il y a un peu partout, dans toutes les villes en Normandie, des gens qui veulent les rénover. Et donc, je parlais de la végétation, il y en a que certains qui vont juste les découvrir.
Ce sont des initiatives personnelles, parce qu'ils appartiennent à qui, au fond, ces bunkers, en fait ? Bah, pas à l'État ?
Si, ils appartiennent à l'État, mais ce que je veux dire, c'est que l'État pourrait effectivement lancer une grande opération de rénovation, mais c'est surtout des particuliers. Et là, c'est vrai que j'ai rencontré une association. Tous les week-ends, ils se retrouvent. Ils sont en association avec le musée de la batterie de Merville. Donc, ils leur fournissent le matériel, des pelleteuses, des bétonneuses. Et eux, tous les week-ends, toute la journée, ils vont faire... ils ont vidé le bunker, ils l'ont nettoyé. Ils le font entre eux. C'est hyper familial, hyper convivial. Et leur but, c'est vraiment, j'en parlais tout à l'heure, c'est d'attirer aussi les touristes quand ils vont venir vers ces zones un peu moins connues. Tu vois, Merville, c'est pas la ville la plus connue. Et pourtant, c'est là qu'il y avait un gros poste de commandement allemand. Et les bénévoles me disaient, si on le rénove bien... Si c'est beau, bah les gens viendront et on sera fiers aussi de nous d'avoir participé à ce devoir de mémoire et d'attirer des touristes sur nos lieux.
Et ce sont essentiellement des jeunes, hein, ces bénévoles ?
Bah pas tant que ça, il y a un peu de tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, quand je suis arrivé, c'était pas étonnant, c'était plutôt des adultes, on va dire, d'un âge assez avancé. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi un peu cette image de la mémoire, l'histoire, le débarquement. C'est pas forcément que des gens de 20 ans qui s'y intéressent, mais il y avait quand même quelques jeunes... minoritaire, mais j'ai quand même été les voir et c'est vrai que le but aussi de ces associations, c'est de transmettre. Parce que l'association dont je parle, ils n'ont plus de vétérans. Il y en avait encore jusqu'à très peu de temps, il n'y en a plus. Donc maintenant, leur défi pour les 80 ans, c'est vraiment de transmettre aux plus jeunes. Et donc là, quand j'étais avec eux, il y a 2 jeunes qui sont venus en disant est-ce qu'on peut aider ? Ils étaient super contents, parce que eux, c'est un peu le passage de flambeau.
Alors je crois que tu en as rencontré un, 2 jeunes en particulier qui rénovent ces blockhaus. Avec quand même un double discours, hein. Ils participent à cet entretien du D-Day en rénovant les blockhaus, mais en même temps, il te dit « j'en ai un peu marre de vivre entouré de tout ce décorum ».
Oui, ça c'est Léo, et c'est vrai que Léo, c'était une rencontre super intéressante. Bah, comme je disais, j'étais beaucoup avec des cheveux gris, si je peux me permettre, et quand je l'ai vu, je me suis dit « je vais aller le voir, je vais lui tendre le micro ». Et lui, bon, il est tout souriant, tout content, et il me dit « ouais, j'adore, c'est super, il mettait des coups de pelle pour nettoyer le bunker », hyper content. Et je lui dis « mais toi, t'as toujours aimé ça, t'as grandi ici ?» Il me dit « ouais, moi j'ai grandi là, mais ça m'énervait, j'en avais marre, à l'école on me parlait que de ça ». Et en fait, si maintenant il y est, c'est qu'en gros, il rentre dans une famille où les gens font ça, ils sont hyper investis. Et donc maintenant, il adore, et je pense que c'est parce qu'il a trouvé un sens. Ça veut dire que ce qui l'énervait, je pense, c'était de l'étudier de façon très scolaire, dans les manuels, comme on a tous fait. Tu vois, moi, j'ai pas grandi en Normandie, j'ai grandi très loin de la Normandie, mais nous aussi, on a eu le droit à notre sortie scolaire. Donc lui, j'imagine qu'en grandissant en Normandie, il peut y avoir, au bout d'un moment, un petit agacement, on a l'impression de parler que de ça. Mais là, le fait de rénover, de mettre un peu les mains dans le cambouis, moi, à la fin de la journée, j'avais envie aussi de le faire avec eux, parce que là, c'est très concret. C'est qu'on voit ce bunker, week-end après week-end, on le voit devenir de plus en plus beau. En plus, il le rénove, mais il le restaure pas. Ça veut dire qu'il le laisse exactement comme il était. Donc là, il a trouvé un sens, et c'est intéressant, ça montre qu'il y a des jeunes qui en ont eu un moment marre. Et en même temps, là, il était content. Donc, c'est pas que les jeunes ne s'intéressent pas à ça, c'est que peut-être des fois, le côté scolaire peut un peu les gêner. Il y a peut-être, au bout d'un moment, un petit épuisement.
Bon, Léo, lui, il trouve un sens, mais oui. J'imagine qu'il y en a quand même certains qui sont plus tournés vers le tourisme, toute la manne commerciale aussi que peut représenter ce D-Day.
Bah, c'est vrai que le D-Day, juste pour redonner quelques chiffres, c'est des millions de personnes qui vont venir pour les commémorations, c'est 5 à 6 millions de personnes, c'est plusieurs milliards d'euros de retombées, pour la région, c'est 700 millions d'euros. Et la plupart des touristes, ils viennent pour ça, pour le tourisme de mémoire. J'étais tombé sur un chiffre, je crois que les 3/4 des touristes qui viennent, c'est pas pour prendre le soleil et se reposer, c'est parce qu'ils savent que là-bas, il y a un vrai tourisme mémoriel. Donc il y a évidemment ce risque que y ait trop de commerce autour de la mémoire. Et justement, ça, c'est aussi une partie de mon grand reportage, c'est qu'il y a des habitants qui se lèvent contre ça et qui disent la mémoire, oui, le tourisme mémoriel, oui, qu'il y ait des boutiques de souvenirs, qu'il y ait des musées. Mais voilà, j'ai rencontré des habitants qui, quand même, m'ont beaucoup touché en me disant on ne veut pas que ça devienne n'importe quoi. Et tu vois, eux, ils adorent le mémorial de Caen. Le mémorial de Caen, il faut payer pour y rentrer, mais ils considèrent qu'il y a un vrai projet pédagogique, que c'est une exactitude historique. Voilà, tout est historiquement vrai. Et ils ne veulent pas qu'il y ait des promoteurs d'autres régions qui viendraient implanter des grands projets, et là, uniquement pour le côté financier. Et ça, c'est, je vais pas dire c'est arrivé, mais c'est quelque chose qui se passe en ce moment. C'est un projet de grand parc commémoratif. Déjà, le nom est intéressant parce que ça fait 4 ans qu'on parle de ce projet. Au début, les promoteurs l'avaient appelé le Didélandes. Et donc là, tout de suite, les habitants disent « Attendez, Didélandes, on est un peu
sur... » Ça fait un peu Disneyland.
Exactement. Et tout de suite, ça a été non au Disneyland, débarquement, commémoration. Donc ça montre qu'il y a peut-être... évidemment, des gens d'autres régions hein, qui peuvent aussi venir s'implanter en Normandie parce qu'ils savent pertinemment, avec les chiffres que j'ai rappelés, qu'il y a un intérêt économique. Ça veut dire que si on ouvre un parc ou un magasin lié au débarquement, on sait qu'à chaque fois, au mois de juin, il y aura des clients. Donc, il y a évidemment cette question qui se pose. Mais ce qui est alors très intéressant, c'est qu'il y a aussi, de l'autre côté, des habitants qui veulent l'empêcher. Et ça, c'est moi, c'est une des séquences qui m'a le plus marqué dans mon grand reportage, c'est que bah, il y a des habitants qui se sont constitués en collectif dès que le projet a été annoncé. Et ils ont tout de suite dit « Non, il n'y aura pas ça dans notre région, vous ne pouvez pas faire ça. » En fait, ils se sont dit...
Une sorte de protection voilà. aussi hein, du département.
C'est ça. Ils sont complètement OK pour qu'il y ait de la commémoration et qu'il y ait de l'argent qui en découle, ce qui est tout à fait normal, mais ils ne veulent pas que ce soit uniquement un intérêt financier. Là, le projet dont je te parlais, les habitants ont l'impression que c'est uniquement calculé, ils savent qu'il y a de l'argent à faire, donc ils viennent le faire. Et donc là, les habitants sont vraiment contre ça, et c'est carrément une association maintenant. Hein. Et depuis 4 ans, le projet n'a toujours pas vu le jour. Il a été déplacé de ville en ville, et il n'a toujours pas été construit.
De la lassitude de la part de certains, tu en as ressenti aussi ou pas ?
De la lassitude, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, bon, il y a évidemment les gens de ce projet qui sont lassés de ce tourisme mémoriel qui leur échappe, et notamment, j'ai rencontré Bertrand Legendre, qui est un des plus actifs dans cette association, et lui, il a carrément écrit un livre que je t'ai amené ici, « L'homme brut ».
L'homme brut.
Et lui, il va imaginer sur 200 pages qu'en fait, la Normandie n'est devenue... qu'un lieu d'économie autour du débarquement, et que même les particuliers s'amusent à vendre ce qu'ils peuvent, à leur vendre plus cher. Et donc, c'est pour alerter sur le fait que, attention, la mémoire, le tourisme mémoriel, il faut le...
Une fiction, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire.
Voilà, tout à fait.
On n'a pas besoin de spectacle avec un feu à housse. C'est une mauvaise réponse à une question légitime, hein, qui est celle de la transmission, mais c'est une mauvaise réponse. Et c'est aussi une réponse... je dirais vieillotte dans son raisonnement. Comment penser que, puisque la préoccupation c'est comment transmettre aux jeunes aujourd'hui, quoi, comment penser qu'on va asseoir tranquillement 600 000 jeunes par an sur cette tribune, qu'ils vont rester passifs, alors que si on veut innover en matière de transmission, il faut sans doute chercher du côté de la réalité virtuelle. Là, il y a sans doute des choses beaucoup plus intéressantes à faire qu'un spectacle avec des figurants qui vont se trémousser, jouer à la petite guerre. Quoi.
Et après la lassitude, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est surtout ceux qui l'ont vécu. Ça veut dire que j'ai rencontré par exemple une dame qui a vécu le débarquement, qui s'est ensuite mariée avec un soldat anglais. Ils n'en parlaient pas du tout pendant leur vie, et là, quand moi je vais la voir, elle me répète 10 fois, mais ça n'intéresse personne, c'était il y a 80 ans, et puis j'ai fait quoi ? J'ai juste survécu, j'ai juste fui. Et elle n'est pas du tout fan des commémorations, elle en a fait quelques-unes, mais je suis pas sûr qu'elle sera scotchée à sa télé toute la journée, parce que en fait, ceux qui l'ont vécu se disent, bon bah c'est bon, on va peut-être tourner la page. Et même des vétérans, il y a un des vétérans à la fin qui m'a dit, j'en ai un peu marre de raconter tout ça.
Ça, il y a les deux versions. Il y a ceux qui ont cette fierté et qui ont besoin d'en parler, et puis les autres. Est-ce qu'à côté de ça, il y a aussi des gens, je crois, qui essayent de participer à ce devoir de mémoire, mais de manière beaucoup plus personnelle ?
Il y en a. Je pense notamment à Valérie. Valérie, elle fait venir tous les ans des vétérans américains. Et elle le fait vraiment uniquement parce qu'elle sait à quel point ça peut être important pour des vétérans de revenir. Elle a une histoire assez folle, c'est que quand elle avait une vingtaine d'années, elle a croisé en Normandie un Américain un peu perdu. Et en fait, c'est un Américain qui était venu un peu tout seul, il s'est dit « je vais retourner en Normandie ». Et elle l'a un peu aidé et elle est devenue amie avec ce vétéran. Et depuis ce jour-là, régulièrement, elle va aux États-Unis, elle en rencontre de plus en plus. Ensuite, elle fait des cagnottes dans la région avec ses amis pour leur payer le billet d'avion et les faire venir. Et ensuite, elle les loge dans des familles d'accueil. Donc ça, pour le coup, elle, il n'y a absolument rien de financier parce que bah, tout est bénévole. Là, je l'ai encore eu au téléphone hier, c'est une organisation monstre parce qu'elle a, là, elle a 8 vétérans cette année, donc moins que d'habitude parce qu'ils sont de moins en moins. Et elle les place dans les familles, elle les a amenés à Paris quand ils sont arrivés pour qu'ils voient la Tour Eiffel. Parce qu'elle me disait, ils sont venus, ils ont débarqué, mais ils n'ont jamais vu la Tour Eiffel. Donc elle, pour le coup, c'est vraiment son histoire personnelle et cette volonté de s'investir complètement dans cette histoire du débarquement.
Tu m'as dit au début, Valentin, que tu avais essayé de trouver d'autres angles, toi, en tant que jeune journaliste, pour ne pas retomber dans les poncifs habituels des commémorations du D-Day. Le jour J, donc le 6 juin, puisque nous on enregistre cet épisode le 4, tu couvriras l'événement pour RFI. Ce sera donc une première pour toi. Au vu de tout ce que tu as vu jusque-là, à quoi tu t'attends ?
Alors déjà, j'ai hâte. Parce que, évidemment, comme tu disais, c'est la première fois que je travaille dessus, mais c'est aussi la première fois que je vais aller en juin sur ces lieux de mémoire, parce que j'y suis jamais allé pendant les commémorations. Bah, j'aurai un gros programme, je vais y aller 3 jours, j'ai beaucoup de reportages prévus. Je m'attends à voir peut-être tout ce que j'ai pu comprendre jusque-là. Déjà, je vais retrouver les gens que j'ai interviewés, je vais les retrouver parce qu'ils m'ont dit venez nous voir, on sera là le 6 juin. Donc ça, c'est intéressant. Tout va faire sens, je pense, parce qu'on m'a dit tellement de choses que je vais sûrement voir effectivement des gens qui seront très heureux d'être là, d'autres peut-être qui vont aussi être fatigués. Je suis très très pressé.
On a beaucoup parlé du sens durant cet épisode. Est-ce que tu as aussi le sentiment, dans le contexte évidemment, je pense à la guerre en Ukraine, hein, pour rester sur le continent européen, est-ce que tu as le sentiment que ces 80 ans, ils vont bien au-delà des commémorations cette année ?
En tout cas, on me l'a régulièrement dit. Des vétérans comme des gens qui s'investissent là-dedans me disent regardez tout ce qu'ils ont fait, ils nous racontent le débarquement et très souvent ils terminent par le bruit de bottes est revenu en Europe. Et évidemment, ils font référence à l'Ukraine et très souvent on a des discussions ensuite sur l'Ukraine. On arrive toujours à ce sujet-là. En plus, l'Ukraine sera donc représentée pendant les commémorations avec Volodymyr Zelensky. Oui, je pense que pour beaucoup de gens, le débarquement c'est aussi rappeler qu'à un moment l'Europe a été dans une phase très sombre, qu'à un moment il a fallu la libérer. Et de savoir qu'il y a ce retour de la guerre en Ukraine, pour beaucoup de gens, c'est une façon de faire une sorte d'appel à la paix et de dire on va peut-être pas recommencer ce qui s'est passé et apprenons aussi du passé.
Merci beaucoup en tout cas Valentin d'être venu me raconter tout ça avec tes yeux de jeune journaliste. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur vos plateformes d'écoute favorites. Je vous dis à très vite.